Nous allons commencer par la prière comme à nos habitudes. Seigneur Jésus, comme tu vois, simplement tel que nous sommes, nous venons à toi. Merci parce que tu nous donnes cette liberté de te parler, de venir à toi avec nos interrogations, nos questionnements, nos convictions, tout librement, nous venons devant toi, comme tu étais là, sur terre. Nous tous les exposons, nous venons à toi tel que nous sommes. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Je te prie de continuer à nous parler. Continue à nous parler à travers ta parole et ce message que je remets devant à tes pieds pour que tu puisses le sanctifier. Tu puisses le corriger. De le corriger dans le cœur de chacun de nous. Que les erreurs ne restent pas là dans nos cœurs, mais que tu nous gardes ce qui vient de toi. Seigneur, je remets ce message entre tes mains et que ta volonté se fasse. Amen.
Amen.
S'il faut donner un titre à ce message, comme ça je le dis tout de suite, ben je l'ai intitulé « En route vers la transfiguration ». Pourquoi ? Donc, le mardi, vendredi, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Et nous remarquons, je remarque personnellement, quand je cherche mes sujets, pour le dimanche, eh bien, le Seigneur fait en sorte que ce que nous partageons, Dieu parle à travers nos lectures. Et nous sommes dans la lecture de l'évangile de Matthieu, et nous avons parlé du chapitre 17 plusieurs fois. Je l'ai lu, je l'ai relu, mais qu'est-ce que c'est parlant? Et surtout cette histoire de la transfiguration. Mais vous allez voir, ce message de ce matin ne parle pas de la transfiguration parce qu'on est tous, on a envie de connaître cette transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé, c'est miraculeux, etc. Non, mais ce qui a précédé la transfiguration qui m'a plus parlé. Dans le message, s'appuie sur le chapitre 17 et les deux premiers versets que je vais lire devant vous. Matthieu 17, versets 1 et 2. 6 jours après, on verra après quoi. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Nous connaissons tous cette histoire. Mais nous nous intéressons plus à la transfiguration, mais je pense qu'il y a un message qui précède. Cette découverte de la transfiguration, c'est le chemin vers la transfiguration. Pourquoi Jésus ne prend-il que ses 3 disciples? La première question qu'on peut se poser. Mais 112, pourquoi il a pris que ces 3-là? Si vous attendez une réponse claire de ma part, je ne l'ai pas. Mais j'ai envie de dire, peut-être, sans doute, voilà, vous voyez, donc je fais des suppositions. Parce qu'ils étaient, c'était ceux qui étaient aptes à le suivre et accepter, qui étaient prêts à voir cet effet surnaturel, même s'il était sous forme de vision. Parce que quelques versets plus loin, vous lirez, Jésus leur dit, gardez cette vision, ne la dites à personne, attendez que je sois monté au ciel pour en parler. Donc, ceux qui disent, on l'a vu en vrai, moi je leur dis, peut-être en vision. Mais quand on est en présence de Dieu, dans la prière, il peut se révéler par vision aussi. Peut-être ces 3 disciples étaient ceux qui étaient aptes par expérience et surtout ceux préparés pour l'œuvre que le Seigneur va leur confier plus tard. Pierre, nous le connaissons. Pierre, avec sa ferveur et son amour pour le Seigneur, vous voyez, jusqu'à dire, je vais donner ma vie pour toi. En fait, il ne faut pas lui reprocher d'avoir dit ça. Ça montre dans la disposition de son cœur. Qui dit, Seigneur, je donne ma vie pour toi, c'est qu'il a un tel amour pour le Seigneur, jusqu'à lui dire, je donne ma vie pour toi. N'oublions pas que Pierre a confessé. C'est le premier à confesser devant le Seigneur. Tu es le Christ, fils de Dieu. Et sur cette confession, Jésus a répondu, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc il n'a pas choisi Pierre par hasard. N'oublions pas que Pierre, il représente le royaume de Dieu. Jean et Jacques, alors. Jean et Jacques sont les deux disciples, rappelons-nous dans un passage, sont venus se prosterner avec leur mère devant Jésus. Et la mère demandait à Jésus, est-ce que tu peux me garantir qu'il soit à ta droite et à ta gauche quand tu seras au ciel? N'est-ce pas la plus grande des vocations? On peut le reprocher parce qu'on peut dire la reproche, mais qui sont-ils pour demander? D'ailleurs, les disciples l'ont reproché. Mais qui êtes-vous pour demander d'être à la droite de Jésus? Mais n'empêche, c'est les premiers. C'est les premiers qui sont allés voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, notre objectif, c'est d'être à ta droite. Mais en fait, ce qu'ils ont dit, c'est notre objectif. Ça doit être le nôtre aussi. Seigneur, nous voulons être à ta droite. Sinon, quelle est la vocation de l'Église alors? C'est ce que nous voulons. Et regardons déjà ce passage, il me montre l'amour, le rôle de la mère. Vous rendez compte de ce passage? Il est écrit. La mère, avec ses deux enfants, est allée vers le Seigneur, et c'est la mère qui a pris la parole. Seigneur, elle ne lui a pas dit, Seigneur, est-ce que je peux être avec eux à ta droite? Seigneur, est-ce que mes enfants, mes deux fils, à ta droite? La mère, devant l'amour de ses enfants, elle s'est oubliée. Quel exemple? L'amour maternel. C'est la plus grande évocation que d'être à sa droite, à sa gauche aussi. Si vous voulez lire cette histoire, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 23 à 25. Il y avait une relation personnelle aussi entre Jean et le Seigneur. Il y avait une proximité qui doit nous rendre jaloux en tant que chrétiens. Puisque dans la parole de Dieu, il est dit, Jean, que le Seigneur aimait. Donc, Pierre, Jean est celui que le Seigneur aimait. Ça veut dire qu'il y avait une proximité avec le Seigneur. Donc le Seigneur n'a pas choisi par hasard. Il a pris celui qui aimait le Seigneur, qui était en proximité avec lui, pour l'amener vers la transfiguration. Et Jacques, parce qu'il avait dit avec son frère, donc son frère Jean et Jacques. Jacques avait dit avec son frère que le Seigneur lui a dit, vous voulez être à ma droite? Mais il faut payer le prix, c'est-à-dire qu'il faut boire la coupe. C'est comme ça. Il faut voir la coupe que je vais voir. C'est-à-dire, vous allez passer aussi par une souffrance. Dans votre vie sera donnée pour moi. Eh bien, figurez-vous, c'est ce qui s'est passé à Jacques. Pour Jacques. Jacques lui a répondu, nous le voulons. Et un temps plus tard, Jacques était martyr. Jacques est mort sous l'épée d'Hérode. Je vous invite à lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 2. Alors vous voyez bien que les trois apôtres ne sont pas choisis comme ça. La proximité avec le Seigneur, connaître le Seigneur en tant que Christ, Fils de Dieu, c'est dans cette proximité qui permet au Seigneur de nous amener vers la transfiguration. Ce n'était pas les autres. Si vous voulez un autre exemple pour justifier un peu cette proximité des trois avec le Seigneur, et bien ce sont ces trois-là que Jésus allait choisir pour l'accompagner de plus près à Gethsémané. Vous voyez? L'agonie de la prière. Il a dit, tous les disciples sont restés, il a pris trois, c'est ces trois-là, il les a amenés un peu plus loin, où il est passé tant dans la prière, où il a souffert dans le jardin de Gethsémané. Vous connaissez cette histoire. Je vous invite à lire l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 32-34. C'est très important de savoir pourquoi ces trois disciples étaient déjà choisis. Il n'y a pas de hasard. Et maintenant, dans notre lecture, il est dit, six jours après, Jésus prend les trois disciples pour partir à la montagne pour la transfiguration. Six jours après. Mais six jours après quoi? Parce que, vous savoir, la parole de Dieu a un sens. Tout a un sens. Une virgule, ça a un sens. Une lettre a un sens. Tout a un sens. Et il faut le comprendre d'une manière spirituelle, encore une fois. Quel est le message que le Seigneur veut nous donner spirituellement pour nous, d'une manière pratique, pas théorique? Que demain, quand je me lève, ou maintenant, c'est un sens qui me donne de la nourriture, que ma vie se transforme, change. Comme l'école, comme la recherche, comme le monde répond à ma curiosité intellectuelle, je suis heureux. Et bien la parole de Dieu parle à mon être intérieur qui est une autre loi spirituelle. Nous sommes une nouvelle création, nous sommes un nouvel Adam. Et bien la nourriture du nouvel Adam, ce n'est pas l'intellectuel, c'est la nourriture qui part dans notre cœur, c'est tout ce qui vient de l'esprit et par l'esprit. 6 jours après, mais 6 jours après quoi? Et bien 6 jours après quoi, il suffit de lire le chapitre précédent. Et dans le chapitre précédent, c'est d'ailleurs chapitre 16, versets 13 à 16, je lis « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme ?» Et plus loin, hein, ils lui ont répondu, il y en a qui disent que le prophète, il y en a qui disent que c'est Élie, etc. Oui. Et plus loin, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » 6 jours après avoir reconnu le Seigneur comme le Christ, Fils de Dieu, par révélation. 6 jours après quoi? 6 jours après aussi que Jésus venait aussi de leur dire clairement, dans le chapitre 7, qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Après leur avoir annoncé sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Il leur avait aussi avoué que si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. 6 jours après ces choses-là. Donc ce n'est pas donné à tout le monde d'aller vers la montagne de la transfiguration qu'on comprend comme une histoire, qu'on nomme comme ça. C'est un message pour chacun de nous en tant que chrétien. Nous voulons aller à la rencontre de Dieu. Voilà les 3 messages. 3 vérités spirituelles que le Seigneur veut pour l'Église en tant que son corps. 1ère vérité, Jésus veut se faire connaître à son Église. 2ème vérité, Jésus demande à l'Église de porter sa croix. Et 3ème vérité spirituelle, Jésus veut nous apprendre, nous prendre par la main pour nous conduire dans la présence de Dieu. Tout est lié. Nous voulons aller dans la présence de Dieu, laissons le Seigneur se faire connaître à nous et cherchons à le connaître. Vous voulez rencontrer le Seigneur dans la transfiguration? L'Église doit porter sa croix, c'est-à-dire vous et moi, nous devons accepter de porter notre croix. Ce n'est pas donné à tout le monde. Connaître le Seigneur intérieurement, une connaissance du cœur, une révélation intérieure qui se fait dans la prière. Ça revient toujours, la prière. Face à la connaissance intérieure, du cœur qui se fait par révélation, il y a bien entendu la connaissance humaine, intellectuelle, la connaissance religieuse. La connaissance religieuse, elle nous emmène à quoi? Eh bien, à ce que les disciples ont dit au Seigneur quand il leur a dit, que dit le monde de moi? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. C'est déjà flatteur qu'il soit reconnu comme prophète. Mais ce n'est pas sa réalité. C'est ce que dit le monde. Quelqu'un de surnaturel, quelqu'un d'historique, les religions présentent Jésus, tout ce qu'on veut. Tout, sauf qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, que nous recevons dans notre cœur. Pierre a confessé ce qu'est réellement le Seigneur, le Christ, le Fils de Dieu. Cette confession, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, est synonyme d'un désir de le suivre dans un chemin étroit. Le chemin du dépouillement. Il n'y a pas d'autre chemin. Si vous cherchez le bien-être, oh, vous êtes sur le mauvais chemin. Vous voulez connaître le Seigneur, nous voulons connaître le Seigneur. Le chemin du dépouillement. Et c'est un chemin très, pas large du tout. Mais qu'est-ce qu'il coûte? Porter sa croix et le suivre. Mais connaître le Seigneur par une révélation dans son cœur en tant que Christ, Fils de Dieu, dans le dépouillement permanent, nous transforme et nous pousse à donner notre main au Seigneur pour qu'il nous emmène vers la montagne. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous accompagner dans la présence de Dieu, vers une transfiguration intérieure qu'aucune religion ne peut fabriquer. Seul le Seigneur peut nous prendre et nous accompagner vers la présence divine. Seul le Seigneur peut nous faire connaître le Père. Seul le Seigneur peut nous faire rentrer dans la sainteté auprès du Père. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient te Père que par lui. Je ne fais que lire Jean, chapitre 14, verset 6. Oui, c'est clair. S'il les a pris par la main, les hommes de la montagne, parce qu'il est le seul apte à le faire. De nous-mêmes, on ne peut pas, sinon c'est une religion. On croit s'approcher de Dieu, mais rien du tout. Mais pour être pris et accompagné par le Seigneur dans la présence divine ici-bas, dans ce monde-là, et plus tard dans l'éternité, c'est-à-dire entrer dans la sainte présence de Dieu, il faut d'abord connaître le Seigneur. En tant que Christ et Fils de Dieu. C'est-à-dire en tant que Dieu parmi nous, et en tant que Christ, celui en fait qui nous a sauvés, c'est-à-dire celui qui a payé le prix pour nous, et qui nous appelle à une communion avec lui. J'ai envie de dire, plus nous grandissons dans la connaissance de notre Seigneur, plus nous le laissons se faire connaître à nous, plus nous sommes pris et accompagnés par le Seigneur dans la présence de Dieu vers le Père. Plus nous nous reposons dans la présence de Dieu, plus nous connaissons notre Seigneur. Vous voyez, c'est des deux côtés. L'un attire vers l'autre. Le Seigneur nous emmène vers le Père, et le Père se révèle et nous attire vers le Fils. D'ailleurs, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, le Seigneur a bien dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça, c'est le sens. Que par le Seigneur. Et dans le chapitre 6, verset 44, je lis, « Nul ne peut venir à moi, » c'est-à-dire au Seigneur qui parle, « Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père, si ce n'est le Père qui m'a envoyé l'attire. » C'est les deux sens. Et je le ressusciterai au dernier jour. Connaître le Seigneur est un préalable vital pour notre avancement spirituel. Seigneur, je veux te connaître, toi, personnellement. Ça doit être notre prière. Je ne veux pas m'attacher à ce que tu fais, mais à te connaître toi, en tant que chemin, vérité et vie. Par quel moyen, mes frères et sœurs? Quand nous feuilletons la Bible, on dit par quel moyen? Comment je fais? D'abord, et surtout, par la prière. Négliger la prière, c'est négliger cet instrument spirituel que Dieu a mis à notre disposition pour entrer en communion avec lui. Nous pouvons nous voiler la face. Nous pouvons nous mentir. Ce que vous voulez. Le Seigneur sait qu'il connaît les cœurs. C'est la prière. La prière est un instrument spirituel par excellence qui nous permet d'entrer dans l'intimité avec notre Créateur. Jour après jour, à mon faible niveau, et je vous l'avoue, je découvre qu'il est très difficile d'entrer dans la prière durant les premières minutes. Peut-être que ce n'est pas votre cas. Les premières minutes sont très difficiles, car la chair est là, qui fait tout pour raccourcir le temps. Déjà commence la prière, elle dit, prends 2 minutes, c'est déjà pas mal. Libère ta conscience, 2 minutes, c'est bien. Comme ça, moi, tu pourras dire, j'ai libéré ma conscience. La chair est là pour soulever des difficultés de langage. Ah, je ne trouve pas mes mots, je ne sais pas quoi dire. Ou encore des pensées humaines, pendant que je prie. Le monde qui m'entoure d'un seul coup m'envahit. Ou encore, l'ennemi qui murmure à mon oreille, pour dire, c'est déjà bien ce que tu fais. Tu peux t'arrêter maintenant et vaquer à tes occupations. Tu as rempli ta mission, bravo. Et le diable qui applaudit. La chair est satisfaite. Je peux continuer mon chemin. Mes frères et sœurs, j'ai découvert aussi, c'est un témoignage que je vous donne personnellement. Quand on dépasse les premières minutes, on dépasse les premiers mensonges, on dépasse les tentations. Je me rends compte que je suis bien dans la prière après les premières minutes. Et d'un seul coup, il faut m'arrêter. D'un seul coup, je me dis, mais quand est-ce que je vais m'arrêter? Les premières minutes, c'est les premières minutes de la chair et du diable. Mais quand on les a dépassées, on est dans une paix. On ne peut pas l'expliquer. C'est pas qu'on a des réponses, je n'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est une paix. L'expliquer, j'ai pas de mots. Mais c'est un témoignage personnel. Une prière qui devient parfois silencieuse. Je dis aucun mot, mais je suis bien. Et parfois nourrie par des paroles simples, tel un petit enfant. Heureusement que personne ne m'écoute, parce que mes enfants se moqueraient de moi. Voilà le témoignage que je peux vous donner concernant la prière. À mon humble niveau, alors je ne suis pas quelqu'un qui prie beaucoup. Le Seigneur lui-même nous donne cette recommandation de la parole de Dieu. Veillez et priez. Le Seigneur lui-même est un exemple de prière. Luc chapitre 3, verset 21, je lis. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, il est dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. La prière ouvre le ciel et nous fait entrer dans la présence de Dieu. Luc chapitre 5, verset 15 à 16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Vous voyez, la prière, le Seigneur donne l'exemple. Pendant que les gens cherchaient légitimement des guérisons, le bien-être, Jésus se retirait dans le désert et priait. Le Seigneur, quand il nous prend par la main, il a un objectif central, vital, celui de nous amener vers le Père. Voilà ce qu'il fait. Il nous prend, c'est comme un contrat, je veux dire entre guillemets, excusez-moi ce mot, c'est comme si un contrat qu'il a passé avec son Père, je vais emmener l'église, j'emmène les chrétiens et je les emmène vers toi. Le Seigneur ne cherche que satisfaire le cœur de son Père en préparant des disciples qui le connaissent en tant que Christ, Fils de Dieu, par révélation que nous demandons dans la prière. Des disciples qui acceptent de porter la croix et qui savent ce que ça veut dire, porter la croix. La montagne, dans la Bible, est le symbole de la présence de Dieu. Vous pouvez lire la Bible, de la Genèse, vous verrez la montagne, souvent elle est en lien avec la présence divine. C'est à la montagne que la loi fut donnée à Moïse. C'est à la montagne que je vous l'ai dit tout à l'heure, que le Seigneur laisse les 99 brebis. Pas qu'il les abandonne, mais pas du tout. Il les a laissés à la montagne en présence et laissant sur la présence du Père. C'est pourquoi il va chercher celle qui est perdue. Le psaume 121. Le psaume 121. Versets 1 et 2. Je lis. D'ailleurs, ça fait une chanson, je pense. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà la symbolique encore de la montagne. Dans l'histoire du peuple hébreu, la première mention d'une montagne se trouve dans le récit du sacrifice interrompu d'Isaac par son père Abraham. Genèse chapitre 22, versets 1 à 19, c'est l'histoire d'Isaac, le sacrifice. Cheminer pour atteindre la montagne, c'est-à-dire Dieu, la présence de Dieu, exige une disposition du cœur pour des sacrifices qui nourrissent notre dépouillement. Et voilà le mot qui revient encore, le dépouillement. On ne rentre pas comme ça dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Ce n'est pas donné à tout le monde. Rappelons-nous que les Hébreux, bien qu'ils soient le peuple élu, n'avaient pas le privilège d'entrer dans le lieu très saint. Et se limitaient juste, ils s'arrêtaient au lieu saint. Mais ils n'allaient pas jusqu'au lieu très saint. C'était donné à une minorité, à un reste, c'est-à-dire aux Lévites, descendants d'Aaron, de Moïse. Mais tout le monde ne rentrait pas dans le lieu très saint. Les grands sacrificateurs sont le symbole prophétique des vainqueurs que Dieu recherche dans son peuple, dont l'Apocalypse en parle. Les sacrificateurs, c'est l'Église. Ces vainqueurs, ce sont le reste que Dieu prépare pour le rejoindre dans l'éternité pour régner. Je dis bien le reste. Tout le peuple de Dieu n'a pas atteint la terre promise. Un reste qui atteindra. Tous n'ont pas survécu après le déluge. Un reste. Tous les chrétiens n'iront pas aller au ciel. Un reste. Est-ce que nous voulons faire partie de ce reste ou pas? Ces vainqueurs, ce sont le reste que Dieu prépare pour le rejoindre dans l'éternité, pour régner. Ce sont les vierges sages. La parabole des vierges sages. Ce sont les appelés et élus. Parce que Jésus, il a dit, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Eh bien, ce sont les appelés et élus. Nous avons un grand privilège. Jésus est devenu le grand sacrificateur par excellence. Il nous fait rentrer avec lui directement dans le lieu très saint. Il nous amène, c'est lui qui nous amène vers la montagne. Il suffit de lire l'épître aux Hébreux pour avoir plus d'explications sur ce sujet. C'est le message spirituel du voile du temple qui se déchire. L'évangile de Matthieu, verset 27, les deux versets, 50 et 51. Matthieu 27, 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit sur la croix. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas nos bonnes pratiques, ni nos actions qui nous font entrer dans la présence de Dieu du Père. Ces pratiques sont religieuses si elles sont détachées de la connaissance du Seigneur. Si je cherche le Seigneur comme ma priorité, on en a parlé, ma priorité, les actions couleront de source au point que je n'y prends même pas garde. Les gens autour de nous se plaisent à vanter leur humilité. L'humilité devient orgueil, tellement ils sont humbles. Les gens autour de nous se plaisent à vanter leur humilité, leur sens de l'entraide, leur générosité. J'affiche mes dons, même à la télé. Ils affichent leur bienveillance. Ils n'hésitent pas à le proclamer. Les gens aiment à ce qu'on les flatte. Ils se glorifient d'eux-mêmes. Mais le Seigneur nous appelle à ne se glorifier que de lui, que du Seigneur. Si nous continuons à nous glorifier, nous mettre en avant, c'est que le Seigneur n'est pas encore notre priorité. Et surtout, ne pas vanter ses propres qualités humaines. Le généreux n'est pas celui qui se vante, mais celui qui l'est sans s'en rendre compte. Le bienfaiteur n'est pas celui qui le fait savoir, mais celui dont la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Matthieu chapitre 6, versets 3 et 4. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Rappelons-nous de Jean-Baptiste, à qui on a demandé s'il était Élie. Ceux qui étaient autour de lui disent, Jean-Baptiste, mais tu es qui toi? Tu es Élie qui devait venir? Voilà Jean-Baptiste qui l'a répondu. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Elle répondit, non plus. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Lui demande, qui dis-tu de toi-même? Dis quelque chose, vends-toi un peu, regarde tes lèvres. Il leur répond simplement. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Il a dit qu'il n'était pas Élie, il n'était pas prophète, rien du tout. Il ne se rendait même pas compte. Et pourtant le Seigneur a dit de Jean-Baptiste qu'il était bien Élie qui devait venir. Matthieu chapitre 17, verset 10 à 13. Quel exemple! Lui-même, je ne suis pas Élie. Jésus, tu es Élie. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui voit en lui les qualités. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui s'oublie, qui ne sait même pas qu'il est de qualité. Et c'est les autres qui vont en lui. Quand le Seigneur prend en charge notre vie, il nous éduque à sa manière pour nous sanctifier et nous préparer à entrer dans la sainteté de Dieu. Non pas qu'on devienne saint de nous-mêmes ou pour nous-mêmes, mais il nous revêt de sa propre justice et de sa propre sainteté. Car Et là, je lis 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. « Car il est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » Le Christ, Fils de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux que nous ayons en tant que chrétiens. Est-ce que nous nous rendons compte qu'on a ce qu'il y a de plus précieux? Il n'y a même pas de mots à le dire. Et pourtant, nous avons ce trésor précieux. C'est lui que nous cherchons. C'est lui que nous devons chercher. Rien d'autre, mes frères et sœurs. Rien d'autre. Je dois me lever le matin, je cherche le Seigneur. La journée, je cherche le Seigneur. Avant de dormir, je cherche le Seigneur. Et c'est cela qui doit être notre priorité si nous voulons que le Seigneur nous emmène, comme il l'a fait avec ses disciples, vers la haute montagne, vers la transfiguration. C'est lui que nous cherchons. Et en le cherchant lui et lui seul, la vie jaillit sans qu'on y prête attention. Combien de dans notre entourage, on dit aux gens, mais vous rayonnez la paix, mais qu'est-ce que vous dites? Mais vous ne vous rendez pas compte. Le vendredi, quand on s'est réunis ici, moi j'étais marqué, à un point, vous ne pouvez pas imaginer, de la présence divine à travers Jeannine. Mais quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais même pas. Vous voyez, c'est des choses simples. La vie se verra comme une conséquence naturelle de notre attachement au Seigneur. Il ne faut pas chercher cela, parce que ça coule de source du moment que nous recherchons le Seigneur. Dans ce processus mutuel, nous cherchons à connaître le Seigneur, comme il cherche à nous connaître depuis toujours. Nous découvrons le Seigneur différemment. Nous le découvrons différemment. Nous serons libérés de notre connaissance religieuse de lui, de notre théologie, de nos débats, pour le voir autrement, comme les disciples ont essayé de le décrire avec la pauvreté de leurs mots. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Ils ont utilisé les mots qu'ils peuvent, mais j'en suis sûr que ça ne reflète même pas la réalité. L'Église est appelée à connaître le Seigneur différemment des descriptions et des enseignements historiques, religieux, théologiques, et même ça vient de nos universités théologiques reconnues par les dénominations. L'Église est Christ. L'Église est Christ, si c'est Christ, elle est appelée à rayonner et à témoigner de la vie du Seigneur dans ce monde. L'Église doit vivre la transfiguration, mes frères et sœurs, si je comprends bien. Et si ce n'est pas le cas, nous devons tous nous mettre à genoux, à titre individuel, à titre collectif, pour dire « Seigneur, pardonne-nous !» Parce qu'on voit ce que tu vois de l'Église. Elle doit rayonner, mais elle ne le fait pas. Où est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Montre-nous. À genoux, nous pouvons le savoir. L'Église ne doit pas se conformer au monde. Et on est bien dedans en ce moment. Mais elle doit refléter un Christ rayonnant comme le soleil, une Église blanche comme la lumière. C'est le message adressé aux Éphésiens par l'apôtre Paul à propos de l'Église, en faisant le parallèle avec le mariage. En parlant de l'Église, il a pris le parallèle avec le mariage et la vie conjugale. Éphésiens chapitre 5, voilà ce que je lis, dans le verset 25 jusqu'à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, c'est-à-dire le Christ transfiguré. N'est-ce pas aussi le message du livre de l'Apocalypse que Jean-Marie a partagé avec nous? Quand le Seigneur s'adressant à l'église de Laodicée, et on savait maintenant très bien que Laodicée, ça représente l'église de notre époque, la Laodicée. Voilà ce qu'il lui a dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je m'en suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, les béatitudes, exactement les béatitudes. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, oui, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Plus loin, il lui dit, aie donc du zèle et repens-toi. La réponse, elle est là. Aie du zèle. Le zèle, c'est quoi? C'est la repentance. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à ouvrir nos yeux spirituels tels que les écailles tombées des yeux de Saul de Tarse quand il a recouvert la vue. Que Dieu nous aide à disposer notre cœur, à laisser le Seigneur nous prendre par la main, comme il a fait avec ses trois disciples, à devenir notre véritable Seigneur, qui nous mène vers la présence divine, vers la haute montagne, en cheminant à travers la repentance et la sanctification. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin, mes frères et sœurs. Amen.